J'aimerais qu'ensemble, on apprenne à aimer un des fondateurs, si on peut dire, de notre pays, de notre Église ici du Québec, il y a 360 ans. Le père Paul le Jeune, très peu connu, très peu connu et trop peu connu. Un jésuite qui était l'un des fondateurs des Trois-Rivières et qui est surtout auteur des premières relations au Canada, les relations des jésuites. Relations, ça vient du mot relater, n'est-ce pas? Relater, raconter. Ce sont des bouquins assez énormes qu'il écrivait, qu'il envoyait en France à son supérieur pour lui raconter ce qui se passait ici au tout début. Les premiers contacts avec les Amérindiens, la situation des quelques Français qui vivaient ici à Québec, et finalement Trois-Rivières, il y a Ville-Marie, à partir de 1642, mais il était là avant. C'est un homme exceptionnel, vous verrez, d'un courage. On se dit, de quoi étaient faits ces gens à cette époque pour faire tant de choses? Il paraît qu'il y en a qui en font autant aujourd'hui que souvent on ne connaît pas. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Les auteurs des relations des jésuites de la Nouvelle-France, ils ont écrit ça de 1632 à 1672. Ça s'étend donc sur 40 ans. Ils n'ont pas prétendu faire une œuvre littéraire, hein? Mais c'est bien écrit quand même. Ils étaient, ces hommes-là, ces jésuites, engagés à fond, je dis bien à fond, dans l'apostolat qui me semble, moi, le plus méritoire et le plus difficile, c'est-à-dire la conversion des Amérindiens de cette époque. Et dans leur relation, ils racontaient tout simplement ce qu'ils croyaient devoir raconter, qui pouvait intéresser ceux qui allaient lire ça dans la vieille France, de l'autre côté de l'océan, afin d'attirer, évidemment, des bienfaiteurs, qui pourraient leur envoyer évidemment de l'argent, mais qui pourraient aussi, dans les monastères particulièrement, prier pour eux. Car ils avaient bien conscience que sans Dieu, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils faisaient. Et ils le redisent souvent dans les relations, c'est très beau, c'est très émouvant, et on sent qu'ils le croient. Évidemment qu'ils n'ont pas tout dit dans ces gros bouquins. Ça a été édité, oh, il y a déjà de nombreuses années, tout d'abord, mais les dernières, moi, que j'ai, c'est 6 bons volumes parus aux éditions du Jour. Il y a, si je me souviens bien, 25 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Et c'est très, très bien fait parce que c'est une duplication, si on peut dire, d'une édition très ancienne du milieu du XVIIe siècle, donc dans les mêmes caractères. On dirait qu'on a les livres de cette époque, sauf qu'évidemment, ils sont reliés de façon moderne. Mais ça se lit très bien quand même, parce que la langue française à l'époque était déjà très semblable à la nôtre. Alors, est-ce qu'on peut se demander si ce sont des faits vraiment extraordinaires? Tellement extraordinaire que ça n'a pas de sens, que c'est pas vrai, et qu'ils ont voulu exagérer, puis qu'on pourrait suspecter la vérité de ce qu'ils disent, qu'ils avancent, ces jésuites-là. Je ne pense pas, parce qu'ils ont soin d'indiquer leurs sources. Et le père Lejeune le fait très bien. Il affirme solennellement ce qu'ils ont vu, eux-mêmes, ce qu'ils ont vu et entendu. Et puis, en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils étaient remarquablement équilibrés. Hein? On voit bien par la lecture de ces textes-là que ce ne sont pas des gens, je m'excuse de l'expression, un peu tordus. Dans les débuts, surtout, il leur est arrivé de prononcer des jugements un peu hâtifs sur les populations qu'ils rencontraient. Mais ils ont dans la suite apporté des correctifs nécessaires. Et c'est très intéressant, si vous aviez le temps de lire ce qu'ils disent des Amérindiens, puis de leurs grandes qualités. Et les qualités sont admirables, mais leurs défauts sont un peu terrifiants, et j'aimerais pas ça lire ça en ondes. Ça pourrait blesser certaines personnes. Mais ça vaut la peine de les lire, ce sont des documents. Moi, j'ai déjà lu des documents sur notre peuple de Québécois de langue française, écrits par des voyageurs au siècle dernier. Il y en avait un en particulier qui disait des choses peu aimables sur notre façon de vivre au début du siècle dernier. Mais ça se lit, puis on s'aperçoit que finalement nos ancêtres ont eu beaucoup de problèmes et de misère après la conquête. C'était terrible. Réduit à une pauvreté abjecte séparée de la France. En tous les cas, on n'a jamais pris la probité des jésuites qui ont écrit ces relations, ces 6 volumes, là. On n'a jamais pris ça en défaut. D'accord, c'était des hommes du grand siècle, c'était des hommes instruits, ils savaient observer, ils savaient distinguer, ils savaient s'exprimer. Et leur langue est assez belle, et c'est assez bien écrit, qu'elle fait penser à bien des auteurs mieux connus qui ont écrit en France à l'époque. Et on peut dire que nombre de pages de ces relations pourraient figurer, il me semble, dans des anthologies qu'on pourrait étudier ici, faire étudier à nos jeunes, leur faire étudier ces textes qui ont été écrits il y a 360 ans et qui sont très, très, très intéressants. Ça fascinerait des jeunes de 14, 15, 16 ans, j'en suis sûr, hein? Ils ont écrit ça au 17e siècle. Je ne sais pas pourquoi on leur fait lire du Michel Tremblay en abondance. D'accord avec Michel Tremblay, mais quand même, il n'y a pas que les auteurs du 20e siècle, hein, pour l'histoire de notre pays. On peut dire que si chaque relation n'est qu'en somme une espèce de longue lettre annuelle écrite dans un but précis, mais l'ensemble, toute la collection, qui va, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 1632 à 1672, constitue, et c'est ça qui est important, une source incomparable de l'histoire religieuse du Canada. Notre histoire religieuse du tout début. Pleine d'héroïsme et de bonté. Pleine de dévouement. Et les renseignements, ils sont très, très nombreux aussi sur les moyens de communication entre l'Europe et le Canada à l'époque. Vous savez, quand on lit la traversée en bateau du Père Lejeune, mais c'est épouvantable. Il part, puis il fait un port, puis ensuite un autre en France, puis ensuite, ils réussissent à faire à peu près 200 lieues, et tout à coup, le vent s'arrête. Ils sont pris là pendant des jours, des semaines, sans pouvoir bouger. Puis tout à coup, quand le vent s'élève un peu, ils repartent. Et puis là, c'est les tempêtes effrayantes. Le bateau monte comme sur des montagnes. Il tombe dans des vallées. Ils pensent que d'eau crue de la vallée, là, les vagues vont les enterrer, j'allais dire, les recouvrir complètement. Ah, puis c'est la maladie, puis c'est le... la soif épouvantable parce qu'il n'y a plus rien à boire. Ça dure plus de 2 mois, cette traversée. 2 mois quelque chose. Mais c'est comme ça que nos ancêtres ont traversé. Nos ancêtres ont traversé comme ça au 17e siècle. Mais c'est intéressant à lire parce que là, on comprend mieux l'héroïsme de nos ancêtres. De quel sang nous sommes formés? De quel héritage nous sommes? Où est notre fierté? Où est notre courage? Mon Dieu! On dirait qu'on ne sait rien de ce que nous sommes, hein? Quelle tristesse d'en réenseigner l'histoire avec toutes ces épopées. Ça ressemble aux grandes épopées que les Grecs étudient au sujet de leur mythologie puis de leurs ancêtres. Et les Grecs sont fiers, ici à Montréal, de tout étudier ça dans leurs écoles grecques. Et nous, qu'est-ce que nous apprenons? Et les Juifs, ils apprennent tout ce que Moïse a fait et tout ce que les héros de leur histoire ont fait. Ils sont fiers d'être Juifs. Et nous, mon Dieu, j'ai le goût de répéter, j'en ai marre, mais ça surprend un peu les gens quand je dis ça. Mais enfin, il y a donc toutes sortes d'explications sur les moyens de communication entre l'Europe et le Canada, puis entre les différentes régions ici du pays. Il y a des passages aussi sur la flore, la faune, le climat. Toutes sortes de belles choses, extrêmement intéressantes pour toutes sortes de jeunes d'aujourd'hui et de moins jeunes. On y apprend à mieux connaître les peuples qui habitaient alors le Canada, toutes sortes de problèmes et les merveilleux résultats de l'apostolat des missionnaires. Et les relations ne parlent qu'en passant de la colonie française, mais ce qu'elles en disent est exact et d'autant plus précieux que les autres sources d'informations sont rares pour la même époque. Hein, on n'a pas grand-chose. Et enfin, on doit aux relations presque tout ce que nous savons sur l'âme, sur les travaux, sur les souffrances, sur l'héroïque mort de nos saints martyrs. Facilement accessible au grand public, dans l'édition des éditions du jour, vous pouvez aller consulter ça dans des bibliothèques si vous ne le trouvez pas sur le marché, dans des occasions. Mais c'est dommage parce qu'il y a peu de lecteurs aujourd'hui, car rares sont ceux qui les ont lus intégralement, mais quand on lit ça comme des romans. Le père Paul le Jeune, qui a été le principal rédacteur, qui a vécu de 1591-1564, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de son entrée dans la Compagnie de Jésus. Il est entré à 22 ans. Le 21 septembre de l'an 1621, je crois. C'est une personnalité qui est très, très attachante. Il inaugure, puis comme à son insu, sans trop s'en rendre compte, cette longue série des importantes relations des Jésuites de la Nouvelle-France. Vous savez, c'était un calviniste, un protestant, qui retournait finalement la religion de ses ancêtres, parce que ça ne faisait à peu près que 80-85 ans qu'il y avait des calvinistes. Le schisme avait eu lieu vers 1520 quelque chose. Et puis, donc, vers 1608-1609, il redevient catholique pour entrer finalement 22 ans dans la Compagnie de Jésus chez les Jésuites. C'est une nature toute fraîche. Il a acquis chez les calvinistes un grand amour de la Bible, de la parole de Dieu. Les protestants ont un tel amour de la parole de Dieu, de la Bible, avec raison. Nous aussi, nous l'avons et nous la lisons tous les jours à la messe. Vous savez qu'il y a des millions de catholiques tous les jours qui vont à la messe à travers le monde. Et tous les jours, eh bien, ils lisent des passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament ensemble, et le prêtre leur explique ces choses-là. C'est tous les jours, hein? Tous les jours. Et c'est un homme sensible, il est candide. Il semble avoir pris pour devise ce principe de son contemporain Saint-François Sales, qui vivait à la même époque, auquel il ressemble par plus d'un trait, hein? Ne rien demander, ne rien refuser. C'est leur façon de vivre tous les deux. Ne rien demander, ne rien refuser. Puis grâce à cette parfaite disponibilité là, entre les mains de ses supérieurs jésuites, le père Lejeune a fait de très grandes choses. Je recevais hier un très beau livre sur Saint François de Sales par François Angelier, pas Langelier, mais Angelier, paru chez Pygmalion. Et ça m'a l'air extrêmement intéressant. Je l'ai feuilleté hier, j'ai lu un peu. Très intéressant, un beau livre. Il vient tout juste de paraître, si ça vous intéresse, Saint-François de Sales. Ça a quelques 240 pages. Et c'est très bien fait, semble-t-il. Je saurais vous le recommander parce que l'auteur est quelqu'un de très versé en spiritualité et en vie de saint. Alors nous revenons au père Paul le Jeune, jésuite, qui a vécu de 1591 à 1664 et qui est à mon avis un des grands héros de notre histoire ici au Canada, au Québec. Un prêtre, un missionnaire, un jésuite, qui était procureur aussi, qui était l'un des fondateurs des Trois-Rivières, comme je vous disais tout à l'heure. Je le répète parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard. Il a été auteur donc des premières relations au Canada. Il est né en Champagne, comme mon ancêtre, à Chalon-sur-Marne. En juillet 1591, donc de parents calvinistes, comme je vous ai dit, auprès desquels il a appris à aimer la Bible. Il est devenu jeune homme, il se convertit malgré eux, malgré ses parents. Il abjure le protestantisme pour embrasser le catholicisme, la religion de ses ancêtres. Il entre, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 22 ans, le 22 septembre 1613, il entre au noviciat des Jésuites à Rouen. Rouen, ça vous dit quelque chose, hein, Rouen, où a été brûlée notre pauvre Jeanne d'Arc. Rouen, cette ville extrêmement importante que les Anglais avaient conquise et qui fut libérée par l'armée française. Et alors donc, il a étudié la philosophie à La Flèche, d'où une partie de nos ancêtres viennent. Il a étudié ça jusqu'en 1618, et puis il a enseigné au collège de Rennes, c'est-à-dire en Bretagne, puis de Bourges, où il y a une belle cathédrale, là. Ça, j'ai jusqu'en 1622. Comme vous voyez, il faisait des études sérieuses, déjà, les jésuites. Puis il a suivi les cours de théologie à Paris pendant 4 ans. Puis a professé ensuite, il a enseigné à Nevers. À Nevers, oui, oui, Sainte Bernadette Soubirou, aujourd'hui enseveli-là. Son corps est conservé. Il faut aller voir ça. Le corps de Sainte Bernadette Soubirou, qui a eu les apparitions de la Vierge à Lourdes. Alors, ses supérieurs nomment alors notre bon père Paul le Jeune supérieur et prédicateur à Dieppe. Ça vous dit quelque chose, Dieppe? On en a tellement parlé durant la dernière guerre. Et c'est là qu'il a reçu son obédience, finalement, comme on dit, c'est-à-dire l'ordre de partir pour le Canada, après le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632 qui rétablissait la paix. Il a 41 ans. Et le 31 mars, il quitte donc Dieppe. Il va à la rencontre, à Rouen, du père de nous et du frère Gilbert Buret. Il se rend au Havre, puis à Honfleur. Et le 18 avril, son vaisseau, tout petit, c'était petit vaisseau. Vous êtes déjà monté à bord de ces vaisseaux? On en a des fois en rade à Montréal ou à Québec. Il faut monter à bord pour voir comme c'est étroit, tout petit, petit. Hein. Alors le vaisseau met à la voile, puis il est contraint de... toutes sortes de choses. Finalement, ils arrivent, comme je vous ai expliqué ça un peu tout à l'heure, là, ils arrivent à Gaspé, ils célèbrent la messe là, puis le 18 juin, finalement, ils descendent l'ancre au fond du fleuve à Tadoussac, d'où les passagers remontent, embarquent, là, pour se rendre jusqu'à Québec. Vous vous souvenez de l'habitation à Québec, cette habitation qu'a construite Champlain? Elle est au bas du fort, mais c'est un amas de cendres. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont les Anglais. C'est pas d'aujourd'hui. Les Anglais l'ont brûlée. Et le lendemain, on envoie sommer le capitaine anglais qui occupe Québec à ce moment-là, déjà, hein? Thomas Kirk. Il paraît-il que ce serait des Kerr, K-E-R, ce sont des Français renégats du nord de la France, d'après le Père Lejeune. Et puis, le Père Lejeune lui montre les lettres signées du roi d'Angleterre, qui l'oblige à remettre les clés du fort de Québec, le 13, entre les mains de M. Emery de Caen et de M. Duplessis Bochard, son lieutenant. Alors, ils entrent dans la maison des Jésuites, lui et ceux qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Imaginez, c'est terrible. 2 tables de bois, puis les portes, les fenêtres, les châssis sont tous brisés et enlevés. Et c'est encore pire que ça dans le couvent des Récollets, c'est-à-dire des franciscains de l'époque. Le vendredi 20 juillet, on va dans la rade pour saluer Monsieur de la Ralde et le capitaine Morieux. Puis le père pense se noyer avec 2 Français dans un canot de sauvages avec lesquels il est, on dit, à l'époque, des sauvages. Il n'y a rien de péjoratif en disant des sauvages à l'époque. Hein. Et puis le canot se retourne dans un remous. Et puis, il se sent étouffé, il croit qu'il va mourir. Il ne paraissait de lui qu'un bout de sa soutane à la surface de l'eau. Il était complètement dans l'eau quand 2 indigènes, 2 Amérindiens, accourent pour le secourir de là. Alors, c'est tout un personnage. Né protestant, devenu catholique, devenu jésuite, arrive ici, risque de se noyer, il est sauvé par 2 Amérindiens. Après le départ des vaisseaux, en septembre, le père Lejeune s'applique à étudier la langue montagnaise. Les montagnais, vous savez qui c'est, hein? Il y en a qui chantent sur nos ondes et on les aime bien. Il y en a qui travaillent à Radio-Canada, qui ont été d'éminents employés de Radio-Canada. Les montagnais, on en a beaucoup parmi nous et ils sont toujours très appréciés par les Québécois. Nous les aimons beaucoup. Ils viennent de Pointe-Bleue, Lac-Saint-Jean, en grande partie. Mais alors là, il apprend la langue montagnaise en feuilletant un petit dictionnaire écrit à la main, qui est un don d'Éric Ollet en France qu'il avait reçu, mais c'était tout rempli de faux, puis il va tout corriger ça. Et dans ce but, bien, il fréquente des groupes de nomades des environs de Québec, puis il se lie d'amitié avec son voisin qui s'appelle Manitougache. J'ai une ancêtre, moi, qui s'appelle Manitouabewitch. Alors lui, son voisin s'appelle Manitougache, toujours des Manitou, Manitou c'est Dieu, hein. Alors, qui est surnommé la nasse, ou panier d'osier de pêche, parce qu'il allait à la pêche avec un panier d'osier suspendu, puis il rentrait dans l'eau, puis il le relevait, puis il y avait des poissons dedans. Puis, ce Manitougache, surnommé la nasse, a trois familles, c'est-à-dire qu'il y a une famille composée de trois ménages. Il y a aussi Pierre Paste de Chouanne, qui est un personnage qui va être important dans sa vie au début, au père, le jeune. C'est un jeune homme que le père Dolbeau avait conduit, puis fait baptiser en France. En France, oui, en 1620. Et qui parle bien le français après 5 ans de séjour à Angers, ce jeune Amérindien, ce montagnais. Alors, il est pauvre, présent, il vit dans la misère. Alors, il consent, pour faire un peu d'argent, à enseigner au père le jeune la langue montagnaise. Et puis, il l'a aidé à apprendre les prières qu'il faisait chanter lui-même à une 20aine d'enfants. Le professeur Pierre Paste-Deschouanne, ce jeune homme-là, est disparu soudain. Pourquoi? Ben, il voulait se soustraire aux guerres du carême. Le carême, à l'époque, c'était pas notre carême d'aujourd'hui, où il se passe à peu près rien. C'est un carême qui fait penser peut-être un peu au ramadan des musulmans d'aujourd'hui. Nous sommes pleins d'extase devant le ramadan des musulmans. Dans nos journaux, on en parle chaque année. Notre carême, on n'en parle absolument pas, parce qu'il reste, pour ainsi dire, plus rien. Mais je me souviens, dans mon jeune temps, ma mère pesait sa nourriture. On pratiquait vraiment le carême. Ça se pratiquait, hein, par rapport à la nourriture. Et puis, notre Pierre Passé des Chouannes, ben, il retournait à la vie sauvage. Le père avoue qu'il savait parler assez médiocrement cette langue, et puis il se faisait un peu comprendre. Et le 21 décembre 1632, ben, il accueille deux petits pensionnaires. Il leur enseigne les lettres puis l'écriture le mois suivant. Là, en janvier 1633, le père le jeune consigne dans sa relation des observations sur la façon de soigner les malades. Ça pourrait intéresser Madame Goudreau, ici, à Radio-Marie. Il parle d'interpréter les songes aussi, ainsi que la crainte des Amérindiens d'être empoisonnés par les Français. Et les Indiens qui ont une crédulité inconcevable, ils croient tout ce que leurs sorciers leur disent d'abominable. Un jour, il rencontre une mère avec sa fille, puis il leur assure qu'un jour, des femmes blanches vont venir de France pour enseigner les enfants de leur sexe. Et tout de suite, la mère, qui est très sympathique, elle lui répond qu'elle veut lui confier sa fille à ces femmes-là, qu'elle aimerait bien qu'elles soient instruites par des femmes françaises. Et aussitôt, il écrit dans sa relation, « Est-ce qu'il n'y a point en France quelques dames pour fonder ici un séminaire de filles? Il y en a bien dans Paris qui emploient tous les ans plus de 10 000 francs en leur menu plaisir. Ah, si elles en appliquaient une partie pour sauver tant d'âmes, qui se vont perdant tous les jours, faute de secours. » J'aurais le goût de paraphraser ça, puisque c'est le moment de la pause. Il me semble qu'il y a bien dans Montréal des gens qui emploient tous les ans plus de 10 000 $ pour leur menu plaisir. Ah, si elles en appliquaient une partie, pour sauver tant d'âmes qui se vont perdant tous les jours, faute de voir peut-être un jour disparaître Radio-Ville-Marie si nous n'avons pas les dons qu'il faut. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut y penser. Et le 14 mai, bien, il baptise un petit nègre qui avait été ramené de Madagascar, qui avait été donné aux frères Kirk, les Anglais, puis l'ont laissé au fort. Et le 22, retour de Champlain, puis du père Jean de Brébeuf, et bientôt du père Massé, puis M. Decamp remet les clés à M. Duplessis-Bochard, qui les rend le lendemain au gouverneur. Et nous verrons plus tard la suite des aventures du père le jeune qui vont devenir de plus en plus remarquables, de plus en plus intéressantes. En juin et en juillet 1633, il y a 140 canots algonquins et hurons qui sont chargés de fourrures qui descendent pour faire la traite, hein, pour échanger. Alors, il rencontre Champlain, Samuel de Champlain, fondateur de Québec. Tous se disputent l'honneur d'amener les missionnaires. Ces Indiens-là voudraient avoir des missionnaires avec eux. Ce sont des hommes, quand même, malgré leurs problèmes, désireux d'apprendre. Mais, finalement, ils changent d'idée parce qu'il y a un meurtrier amérindien qui a été emprisonné. C'est dommage. Hein? Le père Lejeune épie l'occasion de se familiariser avec la langue algonquine. Il dit qu'il faut de nécessité suivre les sauvages puis hiverner avec eux. Alors il s'entend avec son type, la Pierre Pastet-Deschouan, qui a déjà vécu 5 ans à Angers, en France, cet Amérindien, puis ses 3 frères. Alors, ils font un groupe pour aller à la chasse pendant plusieurs mois. Ça comprend 20 montagnais, des hommes, des femmes et des enfants. Ils partent comme ça, eux autres. Le départ a lieu le 18 octobre 1633, puis le retour le 9 avril 1634. Ça fait donc près de 6 mois d'hiver à la chasse. Et les détails de cette excursion au Bas-Saint-Laurent, dans les îles, sur les rivages du continent, ça offre au père Lejeune, qui a une plume alerte, l'occasion d'écrire des choses extrêmement intéressantes pour tout le monde. C'est très intéressant, c'est saisissant. Et les lecteurs en France qui lisent ça, c'est la première relation, demeurent étonnés aussi par les fatigues que se donne le père Lejeune. Puis la faim, la soif, le froid, la fièvre, puis le martyr moral de toutes sortes de problèmes, les menaces qu'il reçoit de temps en temps, les injures du sorcier. Et malheureusement, de Pastet-Deschouan, qui est devenu un renégat et un apostat, selon les dires même du père Lejeune. Alors son projet se réalise, à savoir d'établir un bon vocabulaire des termes algonquins. Il s'initie à la phraséologie, à la prononciation, ce qui est très difficile. En même temps, ce bon jésuite conçoit l'idée d'un programme bien déterminé d'évangélisation des tribus. Alors ça, c'est pas facile, ça devrait... Il a fait, en somme, à lui tout seul, son synode pour savoir comment évangéliser, on pourrait dire. Alors d'une part, quoi? Établir une mission centrale parmi les peuplades stables et agricoles, parce qu'il y avait des peuplades stables et agricoles. Puis d'autre part, il fallait amener les tribus errantes, puis les tribus nomades, à se fixer près des agglomérations de colons, sur un sol cultivable, pour qu'ils puissent s'enraciner, et là, on pourrait éduquer les enfants. Près de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance. Pourquoi Recouvrance? Parce qu'on a recouvré le pays, on l'a repris aux Anglais, Notre-Dame de Recouvrance. Alors le père Lejeune, qui a envoyé 3 missionnaires au Huron en juin 1633, il fait construire non loin du fort une résidence. Il lui donne, parce qu'il est bien patriote, le même nom de Notre-Dame de Recouvrance. Il veut y desservir les colons. Puis au début de sa relation, 1634, là, il va constater le zèle de plusieurs monastères de France. Ça le touche beaucoup que des monastères prient pour lui. On lui a écrit que beaucoup de religieuses même aspirent aux missions du Canada. Mais il faut, c'est ce qu'il dit, une bonne maison, quelques terres défrichées, un bon revenu aux frais de quelques braves dames de France. Alors, durant l'année, il convertit quand même 22 Amérindiens. C'est pas facile, hein? Pas facile, parce que c'est une religion difficile à leur expliquer. Puis, il faut inventer du vocabulaire, même, des idées nouvelles, puis il insiste sur le peuplement. Le peuplement de notre pays qui est en train de se dépeupler. Nous n'avons plus d'enfants aujourd'hui à la fin du 20e siècle. Il insiste donc sur le peuplement car c'est un bien pour l'une et l'autre France. L'ancienne France là-bas, la nouvelle France ici. C'est un bien pour l'une et l'autre France d'envoyer ici des colonies, des gens qui s'établissent. Le 3 septembre, il se rend avec le père Buteux secourir aux Trois-Rivières les Français en érigeant une chapelle de la Conception. On voit bien qu'il est attaché au peuplement. Il l'appelle la Conception. Il demande à la Vierge, qui, le jour de l'Annonciation, conçoit un bébé, Jésus, Dieu, fils de Dieu. Il voudrait que les femmes aussi aient des enfants, qu'il y ait des femmes. Hein? Alors l'hiver, le scorbut et la famine enlèvent plusieurs colons, la misère encore. Et le 21 avril 1635, il descend à Québec. Il accueille en juillet et août 7 ou 8 missionnaires nouveaux. Ah! Enfin! Et grâce aux libéralités du père René de Gamache, il put jeter en automne des fondations. D'un collège déjà, près du fort, sur un terrain concédé par les 100 associés. Aux funérailles de Champlain, qui meurt à ce moment-là, à la fin de décembre, il prononce, il me semble qu'il est mort le jour de Noël même, il prononce le 27 décembre son éloge funèbre, après le service. Puis, il fait connaître au peuple la commission provisoire qu'il détient en faveur de Monsieur de Châteaufort. Bon, peu importe. Le 4 mai 1636, l'année suivante, Monsieur de Gand le prend à sa suite pour présider aux Trois-Rivières une assemblée des sauvages, des Amérindiens, quoi. Alors là, le père Paul le Jeune revient à Québec à la fin du mois. Mais il retourne à Trois-Rivières pour engager les Hurons, à amener de nouveaux missionnaires au mois de juillet. En septembre, il voyage encore. Il accompagne M. de Montmagny à la Rivière des Prairies. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs de la Rivière des Prairies. Puis en octobre, il se rend à Beaupré. Ben oui, à Beaupré, Saint-Anne-de-Beaupré. Puis au Cap-Tourmente. En 1637, il donne des cours au séminaire de Notre-Dame-des-Anges à des jeunes Amérindiens de diverses tribus. Puis il remonte avec le gouverneur à l'Assemblée des Hurons aux Trois-Rivières. Là, il répartit ses missionnaires parce qu'il a peur d'une invasion des Iroquois qui pourraient tous les massacrer d'un seul coup. Monsieur le commandeur de Sillery, c'est son nom de famille, ça, lui garantit les ressources indispensables. Alors le père Paul le Jeune entreprend la Fondation Saint-Joseph comme réserve des néophytes, hein, pour mettre ensemble les jeunes chrétiens qui se préparent à se faire baptiser, ou même des moins jeunes, parce qu'il y en a qui se convertissent sur le tard, des Amérindiens. Et en 1638, le fameux père Vimont, qu'on connaît ici à Montréal, hein, particulièrement à Hunsic, bien, il vient le relever de ses fonctions de supérieur des missions. Puis lui intime l'ordre d'écrire la relation de 1639, et dans une dernière excursion aux Trois-Rivières, ben la barque des pères Lejeune et Rimbaud se brise. Ça les met en péril de mort, mais heureusement il est sauvé, il repasse en France, il traverse encore dans les tempêtes et tout ça, en 1641, un an avant la fondation de Montréal. Alors le père Lejeune en revient l'année suivante, en 1642, au moment de la fondation de Ville-Marie. Et son activité demeure intense à Québec, à Sillery, aux Trois-Rivières, puis à Ville-Marie, où il vient, oui, quand vous vous promenez dans le vieux port ou dans le vieux Montréal. Pensez à ces hommes, pensez au père Paul le Jeune. Il reste là, à Montréal, jusqu'en 1649. Quel homme, quel jésuite, quel prêtre fantastique. Et le 31 octobre, il monte sur la frégate qui va le ramener en France avec un Iroquois captif qu'on veut instruire et présenter là-bas pour susciter des dons et susciter des vocations et des gens qui vont venir s'établir ici. Alors à Paris, on lui confie la charge de procureur des missions du Canada. L'historien Gosselin a fait la preuve que le père, le jeune, est retourné à Québec en 1660 pour, donc 100 ans avant la conquête anglaise, pour traiter en secret des affaires religieuses avec l'évêque. Puis aussi, pour demander au retour des secours au roi contre ceux qu'il appelle les féroces Iroquois. Parce qu'il allait toujours se défendre. Puis en 1653, on lui avait expédié de Québec les matériaux de la relation annuelle qu'il a rédigée au collège de Clermont à Paris. Puis de même en 1657, en 1661. Celle de 1661 porte au frontispice une magnifique Épître au roi. Je vous en lis quelques extraits. C'est assez bouleversant. C'est dans le vieux français. Ainsi, voici votre nouvelle France, au pied de votre majesté. Une troupe de barbares, il faut pas se scandaliser du mot barbare, ça veut dire étranger, hein, dans, à l'époque. Et c'est pas comme dans le, aujourd'hui, ça n'a pas le même sens. Hein. Alors, je veux changer le mot barbare pour amérindien, ce serait peut-être plus simple. Une troupe d'Amérindiens, comme vous fera voir ce petit livret, l'a réduite aux abois. Écoutez, sire, si vous l'avez pour agréable, sa voix languissante et ses dernières paroles, « Sauvez-moi, s'écrie-t-elle, je vais perdre la religion catholique. On me va ravir les fleurs de lys. Je ne serai plus française. On me dérobe ce beau nom, dont j'ai été honorée depuis si longtemps. Je tomberai entre les mains des étrangers, quand les Iroquois auront tiré le reste de mon sang, qui ne coule quasi plus. Je serai bientôt consommé dans leur feu, et le démon va enlever un grand nombre de nations qui attendaient le salut de votre piété, de votre puissance et de votre générosité. Ô sire, voici les soupirs et les sanglots de cette pauvre affligée qu'est notre pays. Il y a environ un an, ajoute-t-il, que ces enfants, vos sujets, habitants de ce nouveau monde, firent entendre l'extrémité du danger où ils étaient. Mais le malheur du temps, n'ayant pas permis qu'ils fussent secourus, le ciel et la terre ont marqué par leurs prodiges les cruautés et les feux que ces ennemis de Dieu et de votre majesté leur ont fait souffrir depuis ce temps-là, etc. On voit cet appel déchirant de ce prêtre qui veut sauver notre peuple ici, qui veut sauver notre pays. Alors, le bon père Paul le Jeune, après d'innombrables entreprises d'un dévouement qui dépasse tout entendement, en compagnie spirituelle du père Brébeuf, qui était là au même moment, bien, il meurt à Paris le 7 août 1664. C'est le père Fressancourt, au siècle dernier, en 1875, qui a publié à Paris les lettres spirituelles du père Paul le Jeune, parmi lesquelles il y en a qui sont purement historiques, mais c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui lui a décerné dans son ouvrage la colonisation de la Nouvelle-France. Les éloges les plus flatteurs, et je vous les répète parce que c'est ce qu'il mérite. À titre de recruteur des premiers colons, par la voie de ses attachantes relations. En somme, c'est celui qui a le plus peut-être aidé par ses écrits à fonder notre pays. Le père Paul le Jeune, qui se souvient de ce fondateur de notre peuple. Qui se souvient? C'est tragique quand on y pense que des hommes aussi extraordinaires disparaissent dans l'oubli. Moi, ça me bouleverse quand je pense à ça. Je me dis que ça n'a pas de sens qu'on puisse oublier des gens aussi fantastiques. Parce qu'il n'est pas seulement l'initiateur des relations, on pourrait dire en un vrai sens qu'il est le fondateur de la mission de la Nouvelle-France. Ces relations de 1632 à 1641, donc pendant près de 10 ans, ont imposé le Canada à l'attention de la France, mais d'une imposition sympathique et pleine d'amour. Et ça s'est manifesté par les prières des âmes ferventes, évidemment, mais aussi par des fondations généreuses, comme celle de Monsieur de Sillery, par l'avenue au pays d'instituts religieux qui ont progressé jusqu'à nous, comme les jésuites, franciscains, et qui sont encore, malgré toutes leurs difficultés, des groupes très précieux dans notre Église. Mais quand je vois les jésuites qui ont perdu tout leur collège, que cela me fait de la peine, c'est triste. Le père, le jeune, s'était tellement identifié avec la Nouvelle-France qu'en la quittant en 1649, il ne la quittait pas. À Paris, il en est le procureur, le chargé d'affaires. Il rédige, d'après les documents venus du Canada, la relation de 1651-1652. Puis 1652, 1653, pensez 54, 55, 56, 57, 58, 59, il rédige tout ça. C'est un directeur spirituel très recherché aussi à Paris, dans une ville, et à une époque, et qui en a connu tant et de si grands. Ce père Paul le Jeune a laissé un ouvrage, La solitude de 10 jours, sur les plus solides vérités et maximes de l'Évangile. C'était un homme fondé sur l'Évangile. Ça tient peut-être à ses origines protestantes. Et ça a été plusieurs fois réédité autrefois, ce livre, La solitude des 10 jours, de 10 jours. Et peu de temps après sa mort, on a publié à Paris un volume de lettres spirituelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont mérité d'être réimprimées. Et puis, tel est l'homme qui a fortement marqué de son empreinte nos origines religieuses, puis qui à ce titre mérite de prendre place parmi les classiques canadiens, il me semble. Nous devrions, ici au Québec à tout le moins, l'honorer, le vénérer et lire ce qu'il a écrit. Je lis dans une relation du Père Lejeune, à la suite de sa première traversée, il dit « Toutes ces incommodités étaient communes aux autres, les matelots enduraient bien davantage. Mais tout est passé, Dieu merci. Je n'eusse pas voulu être en France. Tous ces petits travaux ne nous ont point encore, comme je crois, donné la moindre tristesse de notre départ. Écoutez bien ça. Dieu ne se laisse jamais vaincre. Si on lui donne des oboles, il donne des mines d'or. » Cette façon de parler de cet homme me touche beaucoup. C'est beau. Si on lui donne des oboles, à Dieu, il nous donne des mines d'or. Quelle est cette mine d'or? C'est sa présence, la sérénité au creux des souffrances, la joie de partager ses souffrances, la joie de vivre avec lui, de ressusciter avec lui, de faire ressusciter les âmes. Si vous voulez en avoir le cœur net, et vous ne voulez pas lire les relations des Jésuites parce que c'est trop long, si gros volume, procurez-vous donc, puisque c'est sa fête cette semaine, vendredi, Saint-Jean de Brébeuf, le beau livre du père René Latourelle, jésuite Jean de Brébeuf, paru chez Bellarmine. Un livre superbe. Faites-vous un beau cadeau. Ou faites-vous le donner en cadeau. Ah, c'est magnifique. Ça se lit comme un charme. C'est écrit avec beaucoup d'intelligence, à moins de 300 pages, sur du beau papier bien relié, avec quelques illustrations couleurs, très peu au tout début, là. Mais c'est tellement intelligent, c'est tellement beau. Et je vais vous lire un passage. Quantité de témoins estiment que les Hurons sont un peuple intelligent, plus intelligent même que le français moyen. Sans les exalter outre mesure, Brébeuf les déclare doués pour la plupart d'un excellent bon sens et jugement naturel. On voit que ces jésuites, comme le père de Brébeuf et le père Lejeune, savaient apprécier les Amérindiens à leur juste valeur. Dans sa relation de 1636, qui a pour titre « Des espérances de la conversion de ce peuple », il apporte une mise au point, il dit « Entre quelles propositions qu'on m'a faites de l'ancienne France, quelqu'un me demande d'où vient qu'en tant d'années on a baptisé si peu de personnes. Il me semble qu'il faudrait renverser la proposition et dire d'où vient qu'en si peu d'années on a baptisé tant de personnes. Plus loin, il dit, ceux qui savent ce que c'est des langues jugeront bien que d'en apprendre une sans livres et presque sans truchement, parmi des peuples vagabonds et au milieu de plusieurs autres occupations, n'est pas l'œuvre d'un jour. N'est-ce rien de prêcher avec cela à nos Français, d'entendre les confessions? Parce qu'il y a des Français qui sont arrivés, c'est ça qui veut dire, nos Français, c'est nos ancêtres, là, à nous, Québécois de vieilles souches comme moi, là. N'est-ce rien de prêcher avec cela à nos Français, d'entendre les confessions, d'administrer les sacrements, de visiter les malades, d'assoupir les petits divorces qui peuvent survenir, et de faire beaucoup d'autres fonctions capables d'employer tout un homme. J'en veux conclure que, faute d'avoir une pleine connaissance de la langue, nous n'avons pas encore bien commencé à déployer les grandeurs de notre croyance, les grandeurs de notre foi catholique, c'est ça que ça veut dire. Et il ajoute un peu plus loin, s'il ne fallait que proposer en bégayant quelques vérités pour convaincre les sauvages pleinement, ce serait bientôt fait. Ça fait penser à notre catéchèse, on ne peut pas que bégayer quelques petites choses à nos enfants. Je répète ce qu'il dit, ça s'applique tellement. S'il ne fallait que proposer en bégayant quelques vérités pour convaincre les sauvages pleinement, ce serait bientôt fait. Mais il faut interroger et répondre. Satisfaire aux demandes, obvier aux objections, disposer son auditeur. Bref, nos vérités, qui sont plus nouvelles à ces barbares, ça veut pas dire barbare, je le répète, hein, ceux qui n'étaient pas à l'écoute tout à l'heure, ça veut dire ces étrangers, tout simplement, c'est le sens du mot. Bon, disons à ces étrangers. Bref, nos vérités, qui sont plus nouvelles à ces étrangers que ne seraient les opérations d'algèbre à qui ne pourrait compter jusqu'à 10, leur devrait presque faire oublier leur langue quand nous en servons pour les leur expliquer, tant s'en faut que nous ayons pu nous la rendre familière en de si hauts mystères. C'était très difficile d'expliquer les hauts mystères, les grands mystères, l'incarnation, la résurrection, les sacrements. Il fallait inventer des mots. Pas facile. Il ajoute aussi, plusieurs étant en France, se figurent qu'il ne faut couvrir la bouche et dire 4 paroles et voilà, un Amérindien est converti. Et quand ils sont ici, et qu'ils voient ces barbares dans leur résistance, ils crient que c'est temps perdu que de leur prêcher la parole de Dieu. Mais lui a plus de respect que ça pour ces pauvres gens. Quel moyen de les contenter et de peupler le ciel de cette barbarie. Si je n'entrais point, déjà, dans la longueur, je ferais voir que la plupart des chrétiens font de plus grandes résistances à Dieu que les sauvages, parce qu'il prétend, lui, que les Amérindiens, les Montagnais à l'époque, les Algonquins, résistaient bien moins à Dieu. Ils avaient des âmes qui s'ouvraient à Dieu, qui s'ouvraient à Jésus plus facilement que les nôtres. On lui disait, laissez ces gueux, vous perdez vos peines, vous vous rompez la tête sans fruit. Et il écrit, je dirais volontiers un mot à l'oreille de ces gens-là, combien de fois, ou votre confesseur et les prédicateurs, ou quelques bons livres, ou votre propre conscience, vous ont-ils repris de ce péché secret que vous commettez depuis 10 ans? Que de sollicitations de la part du ciel, de Dieu, et de votre bon ange, pour vous le faire quitter. Vous avez résisté à toutes ces batteries et à tous ces canons. Vous qui avez été nourris dans la maison de Dieu, qui êtes marqués à sa marque, qui croyez que ce monstre lui déplaît, qui ne doutez pas que sa justice ne soit épouvantable. Et vous criez qu'un pauvre sauvage est un coquin, un gueux, que c'est perdre le temps que de l'enseigner pour le voir rétif à la première ou seconde proposition, etc. Il est plein de confiance, Père Paul le Jeune, plein d'amour, plein de tendresse. Il a aimé les Amérindiens, les Montagnais en particulier, les Algonquins. Et nous aussi, nous devons apprendre à aimer chez nous nos jeunes sauvages québécois en grande partie, qui traînent dans nos rues, qui sont en difficulté. Il faut apprendre à les aimer. Peut-être faudra-t-il lire, écrit en Huronie, des textes de Jean de Brébeuf, parus dans la Bibliothèque québécoise. On trouve ça actuellement, ça vient de paraître. Il y a tellement de beaux passages et de belles choses. C'est Brébeuf qui dit, « J'ai senti un vif désir de souffrir quelque chose pour Jésus-Christ. J'ai craint d'être réprouvé, parce qu'il m'a traité jusqu'ici avec trop de douceur. Surtout que j'avais gravement offensé sa divine majesté. Mais désormais, je garderai ferme l'espoir de mon salut quand se présenteront des occasions de souffrir. » Si bien écrit. Écrit en Huronie, présentation de Gilles Thérien, ce sont des textes de Saint-Jean de Brébeuf, parus aux éditions BQ. BQ, j'imagine, c'est la Bibliothèque québécoise.